Salut les amis, bienvenue dans le Plein de Super, l'émission qui vous fait découvrir le meilleur de la bande dessinée américaine. Aujourd'hui, on va parler d'American Flag, d'Howard Chaykin. Vous m'avez reconnu, je suis Ringside et je suis accompagné, comme à l'habitude, du Lord of Babylon, Jérôme. Comment ça va, Jérôme ?
Je prête allégeance au drapeau américain. Vive Dieu, vive la télévision, vive les comics. Bonsoir à vous.
Voilà, une déclaration forte. Et également votre barman Isaac, toujours fidèle au poste. Ça va bien, Isaac ?
Eh ben écoute, ça va bien. Ouais, je trouve ça bien aussi de faire American Flag le jour de la fête nationale française. Et on voulait le faire pour la fête nationale américaine, mais on voilà. Était en retard.
Eh oui, voilà.
Mais l'important, c'est de le faire.
Voilà, c'est ça, c'est ce qui compte.
Voilà, l'important c'est d'y arriver, c'est de le faire. Effectivement, on est le 14 juillet. Donc il y aura peut-être des feux d'artifice tiens, pendant l'émission.
Ouais.
Ouais.
C'est pas impossible si on commence
parce qu'on nous adore.
À parler trop longtemps. Mais c'est ça.
Voilà.
On l'a bien mérité. Voilà, bah, vous avez compris, hein, comme d'habitude, on va parler comics hein, pendant un bon moment. Et donc on va revenir sur une pièce maîtresse des années 80, publiée chez First Comics, American Flag de Howard Chaykin. On est en 1983, les numéros 1 à 12, on va chroniquer ici, qui ont été publiés récemment chez Urban. À l'origine, ça a été publié d'octobre 1983 à septembre 1984, donc chez First, hein, comme je vous ai dit, et mise en vente de juin à mai 1984, de juin 83 à mai 84. Au scénario et au dessin, l'immense Howard Chaykin, qui s'encre lui-même, du coup, pour le coup. Aux couleurs, Lynn Varley et Leslie Zahler. Au lettrage, qui est pour une fois très important quand même sur notre série, parce qu'on va voir que c'est quand même une série de pointe, hein, où rien n'est laissé au hasard. Au lettrage, Ken Brusnak, et l'éditeur, c'est Mike Gold, un des patrons de First, hein, quelque part. Ouais. First Comics, Isaac nous en dira peut-être un peu plus sur cette maison d'édition qui a quand même publié beaucoup, beaucoup d'excellents titres dans les années 80. Qui était une alternative à DC Comics et Marvel Comics vraiment très très intéressante et puis qui a marqué son époque hein, quelque part. On va planter le décor peut-être 1983. Vous vous souvenez une année quand même chargée en tension et en violence. On est en pleine guerre froide. Ronald Reagan lance l'initiative de défense stratégique, plus connue sous le nom de guerre des étoiles, suite au refus des soviétiques de l'option zéro dans la crise des euromissiles. Donc voilà, en gros, on a prévu de s'envoyer des missiles nucléaires d'ici pas longtemps. En parallèle, c'est la guerre civile au Soudan, mais aussi au Sri Lanka. Il y a la guerre de la montagne au Liban également. Il y a aussi des bonnes nouvelles, parce que c'est la fin de la dictature militaire en Argentine. C'est l'année du coup d'État de David Sankara en Haute-Volta. En septembre, de fortes tensions mènent à ce qu'on peut appeler des accidents bêtes, hein, puisqu'un Boeing sud-coréen est abattu par la chasse soviétique, qui pensait pour le coup avoir affaire avec un avion espion américain. C'est aussi l'année de l'invasion de la Grenade, des attentats de Beyrouth. Mais surtout, le plus important, le 16 septembre, Arnold Schwarzenegger devient officiellement citoyen américain.
Ah, une bonne nouvelle quand même.
Bonne nouvelle quand même. Et ça, c'est la porte ouverte à tellement de choses possibles. Ça, c'est... Voilà, ouais. Ça termine l'année quand même sur une bonne petite note. Voilà. Voilà, donc une année de grosses, grosses tensions internationales. Décès de Louis de Funès, de Louis Buñuel aussi, de Georges Cukor et du philosophe Raymond Aron. Au cinéma, y a aussi plein de à boire et à manger, hein, avec L'été meurtrier, L'étoffe des héros, Le marginal, Le sens de la vie, Octopussy du côté de James Bond.
Et jamais plus jamais.
Jamais plus jamais.
Deux James Bond.
Deux James Bond dans la même année.
Ouais. Deux James Bond un peu pourri.
Il faut le dire.
Un peu grave, mais.
Mais bon, si tu les fusionnes, t'en fais un bien.
Mais si tu les fusionnes, t'arrives à. voilà. C'est... On va dire que c'est une année standard, quoi.
Voilà.
C'est ça. Roger Moore vieillissant et Sean Connery qui revient pour le rôle dans un film un peu surcoté. Voilà. Et deux films de Pantin, Ciao Pantin et La Valse des Pantins. Je crois pas qu'il y aura d'autres
années. Il y en a un qui est meilleur que l'autre.
Voilà. Ouais. choisissez votre camp. Il n'y aura pas d'autres années avec autant de films de Pantin. Hein. Je vous le dis tout de suite. En musique, de la merde, hein, comme d'habitude. Jean-Jacques Goldman, quand la musique est bonne. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me. Qu'est-ce qu'on a d'autre Billie Jean et Bidit du côté de Michael Jackson, voilà. Et surtout, ouais. Le Rital de Claude Barzotti. Ah. Voilà, encore une année où on a saigné des oreilles.
Tu comprends après
un peu de Julien Clerc ouais.
Sûrement. Ça n'a pas fait le top 10 du hit parade. voilà, on
compte. Envoyer des missiles sur la gueule. Hein.
Bah, c'est pas la musique n'adoucit pas les mœurs, non, c'est à cette époque. Et on comprend aussi pourquoi on fait des podcasts sur les comics hein, et pas sur les singles des années 80. Bon, American Flag, donc de War Check-In, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, ça se passe dans le futur. Hein. L'action se situe en 2031, où, suite à une crise économique d'ampleur inégalée qui a eu lieu en 1996. On s'en souvient maintenant. Le gouvernement américain est relocalisé sur Mars. Et au fil des ans, sur Terre, la société a été reconstruite sous la forme d'immenses centres commerciaux détenus par la multinationale Plex. Des centres commerciaux où les habitants sont abreuvés de programmes racoleurs, qui ressemblent un peu à notre Internet de maintenant. Et un peu aussi à notre télévision, finalement, commerciale. La série démarre avec l'arrivée de notre héros Robin Flagg dans la ville de Chicago. Bon, comme je l'ai dit, qui est un immense centre commercial. Ce Robin Flagg, c'est un artiste complet. Il est acteur, danseur, chanteur et comique de stand-up également. Mais c'est surtout une star déchue de la télévision qui vient intégrer les forces de police de la ville, les Plexus Rangers. Alors, c'est plus une milice qu'une police, mais en tout cas, c'est eux qui font régner l'ordre dans la ville de Chicago. Ville de Chicago où la vie est rythmée par les attaques de gangs d'anarchistes motorisés qui attaquent régulièrement le samedi soir après la diffusion de l'émission Bob Violence sur les réseaux de la télévision de la Plex. Télévision de la Plex qui ressemble aussi beaucoup aux réseaux sociaux d'ailleurs. Donc Robin Flagg, notre héros, va vite découvrir que les programmes télé sont infestés de messages subliminaux incitant à la violence. Et son enquête pour savoir d'où proviennent ces messages subliminaux va l'amener à mettre à jour une conspiration de grande ampleur fomentée par une alliance entre diverses organisations séditieuses qui sont en alliance avec des intérêts politico-financiers. Au fil des péripéties, il va se retrouver chef de la police. Il aura pour partenaire un chat qui parle et un androïde. parce qu'on est dans le futur quand même, je vous le rappelle. Et il va également se retrouver aux commandes d'une télévision pirate. Et voilà, et son objectif, en même temps que maintenir l'ordre, c'est aussi de faire tomber le gouvernement et de ressusciter un petit peu la mythique American Way of Life qui a été pervertie par le système Plex, cette grande multinationale là qui dirige toute la vie sur la Terre, pendant que l'élite un peu vit sur Mars, hein, on l'aura compris. Voilà, on est un peu voilà, je fais en gros un résumé du sujet. Je rentre pas dans les détails de l'intrigue parce qu'il y a on va en parler. Il y a plein de personnages, plein d'organisations, plein d'intervenants. Il se passe un milliard de choses, et comme le titre est quand même facilement trouvable puisqu'il a été édité très récemment. Autant que vous profitiez des détails de l'intrigue en découvrant à la lecture, quoi, tout simplement. Donc voilà, en gros, American Flag, une série qui est donc d'anticipation satirique, critique de la société américaine, comme on savait en faire dans les années 80. Et la question évidemment que tout le monde se pose, c'est de quelle manière on a découvert cette série. Mais peut-être ce qui serait plus pertinent, c'est de voir un petit peu notre première rencontre avec Howard Chaykin, qui est quand même un auteur à part dans le monde des comics américains. Je ne sais pas qui veut commencer, Isaac peut-être.
Moi, c'est grâce au travail éditorial de Comics USA, donc de Ferchit Berouka, qui avait chez Glénat sorti des albums au début des années 90, fin des années 80, début des années 90. Et c'était une collection qui s'appelait Comics USA. Donc il y avait des titres de super-héros. Il y avait le Batman Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli. Il y avait du Superman par Alan Moore et Dave Gibbons. Il y avait le Spider-Man de J.M. DeMatteis et Mike Zeck, que j'aime pas du tout, mais qui est quand même super beau, avec le comment ça s'appelle, c'est avec Kraven le chasseur. Et au milieu, il y avait le Shadow de Howard Chaykin, écrit et dessiné par Howard Chaykin, qu'il réalise juste après là, les épisodes dont on parle de American Flag, qui réalise ça pour DC Comics, qui à l'époque a les droits du Shadow. Et j'ai trouvé ça, j'ai été scotché par le dessin. En fait, ça m'a fait quelque chose de c'était révolutionnaire. Il y a eu deux trois claques comme ça pour moi avec le comics. Il y a eu Will Eisner avec le Spirit, il y a eu Howard Chaykin. Et son style, ouais, il m'a vraiment capté. Et à la même époque, il y avait une série de documentaires sur la 5, la 5e, pas la 5. Enfin, quand ils ont commencé à publier, enfin, la 5 est devenue la 5e et que c'était une chaîne éducative. Ouais. Ce qui est maintenant, je crois, France 5. Il y avait une série de documentaires sur les bandes dessinées, et il y avait une interview de Howard Chaykin où il parlait justement de ses reprises de Black Hawk et de American Flag, qui présentait comme une série où il disait une série où il faut prendre son temps pour la lire. C'est-à-dire il ne voulait pas d'une série où tu lis l'épisode 5 minutes aux chiottes. Voilà, c'est une série qui demande du temps, qui demande de l'implication. Et la façon dont il en parlait, ça m'a tout de suite... Voilà, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Il y avait quelques images qui passaient dans le documentaire.
Mais c'était pas du tout édité en France.
Et c'était pas du tout édité en France. Et j'ai trouvé des épisodes chez des vendeurs de comics d'occasion ou de BD d'occasion. Mais j'avais jamais eu l'intégrale, parce que c'était assez dur quand même à trouver. Et Image Comics, dans les années 2000, a réimprimé les 12 premiers dans un album. Et c'est là où j'ai pu lire enfin les 12 premiers, même les 14 premiers à la suite, dans cette édition. Et ensuite, j'ai réussi à récupérer toute la série complète en single, ce qui fait que c'est avec, pour moi, avec Nexus, c'est l'autre gros monument des séries indées des années 80. Et Nexus, c'est aussi First. C'est aussi, il y a aussi le Rocketeer, il y a aussi Grendel, et il y a Nexus et American Flag.
Parce que Grimjack, c'est First aussi, non ?
Ouais, oui. Grimjack aussi. Ouais. Grimjack. Ah oui, puis War Chicken, il y avait aussi l'album Top BD Scorpio Connection.
J'allais en parler aussi, le
team-up entre Serval et Nick Fury, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais moi l'album m'avait pareil retourné et je crois que je l'ai lu juste après les Shadows, et je me suis dit j'adore ce dessinateur, quoi.
Ouais, c'était une claque visuelle, hein, ce graphic novel, parce que c'était les grands formats à Top BD publiés par Semic. Ouais. Ou Lug à l'époque, je sais pas, un des deux. Mais effectivement, moi, j'ai un doute sur ce que j'ai découvert en premier entre le Shadow également et ce que
c'était à la même époque.
C'était à peu près pareil. Mais effectivement, ça tranche complètement sa manière de dessiner avec le reste des productions Marvel de l'époque. À peine Walter Simonson a peut-être un trait qui se rapproche assez de...
Ouais.
Mais c'est pas aussi précis dans l'illustration Simonson que Howard Chaykin. Et effectivement, son traitement du Shadow, c'était aussi. On est dans la lignée un petit peu de ce qui a été fait sur le Dark Knight et compagnie. Sur, c'est le retour du Shadow après des années de disparition, etc. Et c'est d'une efficacité redoutable, voilà, avec ce style de dessin qui casse la baraque complètement. Et d'ailleurs, j'ai longtemps attendu de revoir Howard Chaykin travailler sur des sur des comics Marvel ou etc. Malheureusement, il a été extrêmement rare, hein. Tout au long des années. T'as pas... Son style et sa mentalité se mariaient pas vraiment avec le monde du mainstream. Mais on en reparlera. Ouais. Jérôme, toi, t'as découvert comment Chaykin ou comment t'as découvert American Flag? Comme tu veux.
Bah moi, alors mon premier contact avec Chaykin, ça avait été, et sans savoir que c'était Chaykin, enfin sans percevoir que c'était lui, c'était Star Wars. Donc, puisque c'est lui qui a s'occupé des, je sais plus, 10 ou 12 premiers épisodes de La Guerre des Étoiles, du comics, adapté donc de La Guerre des Étoiles. Donc c'est comme ça que j'ai découvert, puisque un de mes tout premiers comics, c'était le retour du Jedi, les 4 épisodes, mais bon, là il n'était pas dessus. Mais du coup, bah, ça a été même mon premier contact avec Star Wars avec, via ce truc-là. Et du coup, bah, après, j'ai essayé de retrouver les BD Star Wars. Et donc, c'est comme ça que ça a été mon premier contact, hein, en y réfléchissant bien. Mais sauf que, pour le coup, probablement trop petit ou pas assez conscient, ça ne m'a pas du tout parlé, quoi. En tout cas, ça ne m'a pas fait attention. Et du coup, bah, Howard Chaykin, c'est plus quelqu'un que j'ai d'abord entendu parler quand je commençais vraiment à m'intéresser à l'envers du comics, donc les amis qui me parlaient de cet auteur, les articles que tu lis, toi, des choses comme ça, mais voilà. Alors après, je me rappelle avoir vu certains de ses dessins ou histoires dans, justement, chez Marvel, je crois que c'est dans les années 90 ou 2000, il a fait 2-3 trucs vite fait. Voilà, mais ça venait comme ça, donc pas eu l'occasion. Et puis un jour, moi, j'ai un pote qui m'a offert le premier TPB d'American Flag. Et ouais, là je me suis dit déjà à l'époque, t'as des trucs où des fois on te vend un truc génial, tu sais, les grosses réputations, et t'es un peu déçu. Et là, non, mais vraiment pas. Après, c'était une époque où, quand on me l'avait offert, je maîtrisais pas forcément bien l'anglais. Ce qui fait que je m'en prenais quand même bien la tronche au niveau image, narration et tout, hein, parce qu'il faut dire ce qui est, t'as pas forcément besoin de lire les bulles pour savoir le truc. Mais n'empêche que, in fine, ma vraie terrible découverte, ça a été avec l'édition d'Urban. Puisque, ouais, pour le coup, là, j'avais tous les tenants aboutissants, il y a aussi le contexte, hein, de remettre un peu tout ça là-dedans. Et là, en effet, autant des gens comme... quand on a sur John Byrne, que j'ai aimé dès le début, des gens comme Simonson, Miller et tout ça, et bien autant de Shaking, je me dis des fois, je suis content peut-être de l'avoir découvert beaucoup plus tard, parce que c'est un auteur qui, à mon avis, tu peux aimer dès le début, mais tu te rends compte du travail qu'il y a derrière, et quand tu as une petite expérience aussi de bande dessinée ou même d'art visuel, quoi. Je pense vraiment qu'à mon avis, j'aurais découvert American Fly il y a 15-16 ans. Je pense pas que j'aurais apprécié comme je l'ai apprécié adulte. Cela dit, plutôt tu le découpes, plutôt c'est bien aussi. Hein, faut dire, il y a autre chose. Mais, et j'en reste là parce que c'est quelque chose que je... parlera sûrement après. Je pense par contre que j'ai beaucoup découvert Howard Chaykin par plein d'autres trucs, tellement ça a infusé de comics et de films, et surtout de films, parce que on en reparlera, mais à mon avis, moi, il y a quand même un réalisateur Pays-Bas américain, hollandais, qui a dû beaucoup aimer American Flag dans beaucoup de ses films, et du coup, je me suis dit finalement, Chaykin. J'étais déjà un peu avec moi, quoi, depuis un moment. Hein.
On va spoiler, mais il y a beaucoup de points communs entre la production de Chaykin et le cinéma de Paul Verhoeven. Et notamment, voilà, on peut faire un parallèle assez évident entre Robocop et American Flag.
À tel point que, d'ailleurs, dans Robocop, dans le générique de fin... il y a un remerciement aux travaux de Howard Chaykin sur American Flag. Ça, c'est un générique de fin de Robocop. De la même manière qu'il y avait des remerciements auprès de Harlan Ellison pour Terminator de James Cameron, c'est parce qu'ils avaient peur de se prendre de se prendre un procès, parce que à l'époque où American Flag est sorti, ils ont essayé très vite de placer les droits pour en faire un film. Et visiblement, des pitchs ou des scénarios ont traîné dans les bureaux, et je pense que Ed Neumeyer et je ne sais plus comment s'appelle son compère pour le scénario de Robocop a dû, sachant qu'ils étaient déjà fans de comics, puisqu'on sait qu'ils ont cité Judge Dredd comme influence, et Judge Dredd est aussi une influence quelque part d'American Flag. Hein.
Ouais.
American Flag,
on est dans la même marmite, hein, de toute façon.
Dans la même veine. Exactement.
Ouais. Et moi, il y a un autre titre, est-ce que j'en parle maintenant, est-ce que j'en parle après, mais qui m'a sauté aux yeux, là, cette fois-ci, à la relecture, mais un titre antérieur de quelques années à American Flag, en tout cas, un an avant la création d'American Flag, puisque American Flag, Howard Chaykin le réalise de 82 à 83, pour une parution en 83, en tout cas, les 12 numéros dont on parle. Et il y a un film qui sort en 81 qui s'appelle Outland, avec Sean Connery, qui est sur un shérif qui débarque dans une station spatiale, qui met à jour une conspiration. Et l'adaptation en BD a été faite par nul autre que Jim Steranko. Jim Steranko, qui a aussi expérimenté au point de vue de la narration, au point de vue de la mise en page, dans des expérimentations qui rappellent un peu celles après de Howard Chaykin. Sachant que Ken Brusenac, qui est le lettreur de Howard Chaykin sur American Flag, vient des studios de Jim Steranko. Donc comme ça, tu vois, voilà. La boucle est bouclée.
Outland de Peter Iams. Hein.
Peter Iams, oui.
Qui est le remake de Dans l'espace, du train sifflera trois fois.
Trois fois, qui est mieux.
Qui est mieux que le train sifflera trois fois, d'ailleurs. Parce que
c'est dans l'espace, bon. Et Sean Connery.
C'est Sean Connery avec un fusil à pompe dans l'espace.
Ouais.
Voilà, si avec ça, vous n'avez pas envie de le voir.
T'as l'impression que ça se passe aussi dans l'univers d'Alien, tellement
c'est
Weyland Company qui exploite la concession, quoi, tu vois.
Quand j'étais jeune, moi, je pensais que c'était... tu sais que
c'est le même univers.
Blade Runner, Alien et Outland, c'était le même.
C'est
le pourriverse.
Le pourriverse futur de merde.
Le futur de merde verse.
Ouais. Bah, c'est un peu aussi ça, hein, clairement, American Flag. Le futur de merde qui est vraiment en résonance avec la société telle qu'il devait commencer à la vivre dans les années 80. Comment on fait quand on veut créer un futur? On extrapole un peu sur les travers de la société. Et du coup, bah, on se retrouve avec cet univers où les gens vivent dans des supermarchés géants et ils sont abreuvés de programmes porno soft, on va dire, débiles et racoleurs. avec des... Oui, je sais. Alors, il y avait dans un numéro, il y a une page avec tout le programme C'est que des trucs dégueulasses. Hein. Interspecies love, amoureux est un enculé ou des trucs comme ça. voilà. Et.
C'est donc, pas loin du Bonheur et dans le pré ou de.
Ouais.
Comment
voilà. Un incroyable fion. Couche avec les vaches, quoi.
Ouais, voilà.
Mais on va peut-être parler de ce qu'on pense de la série. Mais le problème, c'est qu'on peut que dire que c'est un chef-d'œuvre, en fait.
Ouais.
Parce que c'est à la fois.
Ouais, moi, j'ose le terme, ouais.
Donc, il pose les bases. Tu corrobores ?
J'allais dire, je corrobore. Et pour moi, c'est un des très très rares comics où tu as l'impression, quand tu lis un épisode, que tu en as lu 12 d'un autre. en termes toi visuel ou de ce que tu as, mais dans la densité même, dans la densité de l'histoire et dans la densité de ce qui va dessiner au sein d'une planche, c'est pas un comics que tu vas feuilleter et que tu te seras dit à la fin c'est bon j'ai lu l'histoire c'est pourri ou c'est sympa, mais voilà, c'est tu ne peux pas ne pas t'attarder sur chaque planche pour en lire bien toute l'histoire, pour l'apprécier, Si je devais faire un parallèle un peu grossier, c'est un peu comme ces films où tu peux les découvrir en DVD, en Blu-ray chez toi, mais en fait, si tu les as pas vus au cinéma parce qu'ils ont été pensés pour le cinéma, c'est comme si tu les avais pas vus. Et du coup, American Flag, si tu le feuillettes très vite, bon, bah, tu peux apprécier, tu peux regarder, mais en fait, si tu prends pas ton temps à vraiment t'arrêter sur chaque page, tu vas pas. Tu as beaucoup d'éléments en fait qui vont passer parce qu'il joue. Il est comme quelqu'un comme. Bon, là, j'ai des exemples français qui me viennent en tête, hein, mais des gens comme Gottlieb, par exemple, qui va te créer 100 000 histoires de gags ou franquins dans les fonds. Et en fait, c'est pas que des gags innocents ou des petits trucs marrants pour faire rigoler. C'est en fait tout participe à la même histoire. Et du coup, si tu prends pas le temps de regarder tout ça, d'aller chercher ça, au final, t'as beaucoup d'impact, de force de American Flag que tu vas pas comprendre forcément quand va arriver tel ou tel épisode. Parce que c'est aussi incroyablement dense. Des éléments qu'il va poser dans le premier épisode qui reviennent dans 10 épisodes après, des trucs anecdotiques, mais jamais sans que ce soit un peu précalculé ou architecturé de manière point A, là je mets le sub B ici pour venir. C'est beaucoup plus dans quelque chose de plus orgasmique, j'ai envie de dire d'ailleurs, dans cette manière de faire. Je pense à certains personnages dont tu connais le passé, des personnages disparus dont tu connais le passé. Mais donc, qui vont revenir plus tard et avec on va dire des révélations un peu sopesques, hein, tu vois, vraiment, tu dis, mais c'est incroyable. Et en fait, non, c'est génial parce que c'est hyper bien pensé tout du long, en fait, du truc. Et voilà, c'est en ça que je trouve, ouais, chef-d'œuvre à ce niveau-là, parce que j'ai jamais lu une BD qui est à un tel niveau de densité et de manière à te capter et tu restes en plus avec plaisir sur chaque page. Tu lis un épisode, tu vas prendre le temps de le digérer, tout ça, tu reliras le deuxième, le suivant, enfin le jour d'après par exemple, voilà. Et moi, il n'y a pas une BD qui m'ait fait ça, hein, et pourtant Dieu sait que je me suis pris des claques avec d'autres BD, hein, mais alors celle-ci, c'est le truc auquel je m'attendais pas en fait à la lecture, hein, et que je trouve grandiose.
Une telle densité dans ce qui est proposé. Il y a à la fois le dessin qui est très, très travaillé, très, très touffu, avec des mises en page complexes, des enchaînements où ça travaille sur les bulles, ça travaille sur les cases, ça travaille sur. Même sur le trait du dessin, sur tout est très précis, tout est très pensé. Il y a une idée à chaque page, à chaque case, à chaque enchaînement de séquences. Il y a une maîtrise de la narration on n'est jamais perdu dans le. Alors qu'il y a énormément de choses qui sont racontées, énormément de choses qui sont montrées à chaque page. Et c'est très, très intelligent parce que dès le début, il pose son personnage. Dans un univers qui va lui permettre de partir dans plein de directions, puisque le personnage de Robin Flagg, alors déjà, c'est assez récurrent, c'est Shakin, c'est un personnage déjà qui a un passé derrière lui, qui a déjà vécu des aventures et qui est un peu revenu de tout déjà. Il découvre un nouveau milieu, donc on va voir toute cette partie où on est déjà dans le futur et on va découvrir tout le monde futuriste par les yeux de Robin Flagg. Il va falloir qu'il maintienne l'ordre dans la ville, donc il va y avoir un aspect finalement assez basique de super-héros où il faut tenir il faut sauver les honnêtes gens et puis etc. Il y a le côté où il va mener ses enquêtes et faire sauter toute une conspiration. Le côté où il est aussi c'est un révolutionnaire dans l'âme, donc il va falloir qu'il fasse aussi tomber le régime et ça permet au titre de partir dans plein de directions différentes. Et du coup, d'entrée de jeu, tu passes ton comic sur des bonnes rails où tu peux aller dans différents aspects du comics de genre en fait, hein, puisqu'il va y avoir un peu du côté film noir avec des enquêtes un peu à la bon. Ça m'a fait penser à Casablanca aussi, la série avec les femmes fatales, l'enquête. On est un peu sous occupation aussi avec des polices. Il y a des règles à respecter. Il y a la télévision où il y a tous les programmes qui sont qui ont été créés avant la crise sont interdits. Donc, il y a du trafic de vidéos avec des programmes anciens. Le sport est interdit à la télé, par exemple, le basket. Il y a, ouais. il y a des ligues interdites clandestines. Il y a aussi tout cet aspect aussi sur les marginaux un peu qui sont obligés de effectivement il y a ce club c'est des marginaux. Alors il y a des démocrates, il y a des anciens les démocrates sont devenus marginaux aussi dans cet univers. Il y a des colos, ouais, des trucs comme ça, ouais. Et le roi d'Angleterre, ouais. Le fils William, qui est caché au milieu de tout ça. Donc ça permet à la série d'aller dans des tout en gardant une intrigue générale qui est précise sur les 12 numéros. On vient d'un point A à un point B. On part dans plein de directions différentes qui sont tous qui permettent d'explorer plein d'aspects de la bande dessinée de genre. Quoi.
Ouais, puis on découvre petit à petit le futur. Dans lequel on nous explique pas tout d'un coup sur où en sont les différents pays, c'est-à-dire que on connaît l'état des États-Unis,
ouais.
Mais petit à petit on apprend un peu ce qui est devenu l'Amérique du Sud, ce qui est devenu l'Europe, ce qui est devenu la Russie, etc. quoi, parce que même Robin Flagg en soi, c'est lui, il est né sur Mars,
ouais.
C'est un Martien à la base. En fait, il connaît pas la Terre. Quand il arrive à Chicago, c'est la première fois qu'il découvre la Terre et qu'il découvre les États-Unis. Et ses parents lui parlaient des États-Unis avec des étoiles dans les yeux. Et lui, il arrive, il s'aperçoit que tout est complètement pourri. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce personnage, comme tous les personnages d'American Flag et tous les personnages de Check-In, sont constamment ambigus. Enfin, ils sont complexes plus qu'ambigus.
C'est-à-dire qu'ils ont des réactions complexes.
Ils ont des réactions complexes. Ils vont pas là où tu t'attends qu'ils aillent dans des.
Ouais.
C'est pas des archétypes. C'est pas des personnages en carton, quoi. C'est vraiment des personnages qui ont leur propre morale, leur propre vie, qui font des choses des fois que tu réprouves, mais qui sont logiques en fait par rapport à leur personnalité. Et Check-In expliquait que c'était un peu un des raisons de son insuccès par rapport à d'autres superstars comme John Byrne ou Frank Miller. C'est qu'il disait, moi, je sers pas la soupe en fait au lecteur en vous expliquant ce qui est bien, ce qui est mal. Je leur explique surtout que en fait, généralement, le pourri, il a plus d'argent, il est mieux habillé, il est mieux fringué, puis s'en sort mieux que le héros. Ouais. Donc c'est pas rassurant en fait ce que je raconte, et donc du coup c'est pour ça que mes BD sont moins populaires, sont moins mainstream, quoi. Mais c'est vrai que il y a cette façon, moi je pense, tu penses à Casablanca, moi je pense à Terry et les pirates de Milton Caniff, qui était un comic strip d'aventure où tu as cette complexité et ce casting de personnages qui est vraiment énorme, parce qu'on parle de Robin Flagg, mais en fait il y a plein de personnages dans la série. Il y a Raoul le chat, il y a Crystal Gale Marakova, la pilote, il y a Amanda Krieger et puis son père Hamilton Krieger, Hammerhead Krieger, donc qui dirige au départ la police et puis qui se fait tuer dans les premiers épisodes, et du coup il enquête sur son assassinat et puis il se fait sa fille, parce que ça aussi on a oublié de le dire, mais Robin Flagg c'est un niqueur. Dans la série, puisque c'est aussi c'est aussi un des aspects intéressants du futur, c'est qu'il y a de moins en moins de naissances. Parce qu'en fait, le gouvernement stérilise à leur insu les habitants de la population de la Terre. Et du coup, il leur donne aussi une pilule du lendemain, en fait, la Magnania Céline, qui est une pilule, mais qui te guérit de tout, en fait, qui guérit de toutes les maladies sexuellement transmissibles, et que tout le monde prend parce que tout le monde baise avec tout le monde, mais en même temps qui les stérilise. Donc ça, c'est un des autres aspects aussi, c'est qu'il y avait un peu de cul. C'est du cul pour les Américains, donc c'est quand même assez soft, mais par rapport
pour
à ce
l'époque,
qu'on peut
c'était...
avoir... Ouais, mais pour par rapport États-Unis. À la bande dessinée aux États-Unis, mais pour la bande dessinée, tu vois...
C'est vrai,
si tu compares ça à Fille Glaciale...
Oui, voilà, nous, on voyait, on voyait plus dans Fille Glaciale, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour les Américains, il y a beaucoup de barésie et de sous-vêtements, ça, il aime beaucoup ça... Howard Check-In.
Ouais.
Mais après, moi, j'aime bien aussi, donc c'est sympa. Et oui. Et puis ces personnages féminins sont pas débiles, c'est-à-dire que tous les personnages sont intéressants, quoi. C'est surtout ça. Si c'était que des cruches en sous-vêtements, ouais, ça pourrait être déplaisant. Mais les personnages féminins sont généralement en plus plus malins que les personnages masculins.
Parce que ce que j'adore, c'est qu'aucun des personnages féminins et masculins. C'est ce que tu disais, hein, en fait, chacun réagit à sa logique, et en fait, chacun a son but, en fait, dans cette BD-là. Et je trouve ça passionnant, parce que c'est une BD qui est centrée sur Flag. Va y avoir quelques épisodes où on va suivre un ou deux personnages, quoi, et encore au sein de quelques pages. Mais clairement, tu imagines très bien chaque personnage... avec ses pensées, avec son projet à lui, enfin tout ça. Et c'est ça qui justement fait que les personnages féminins sont pas du tout des cruches, parce qu'en fait il y a tout un but que chacun veut remplir, et le sexe, et c'est ce que j'adore aussi, enfin le sexe est une valeur marchande aussi dans American Flag, hein, dans tout, enfin je veux dire, c'est la cohérence même du truc, quoi, même un monde startup nation poussé à l'extrême, le sexe est une monnaie d'échange comme une autre.
C'est omniprésent dans les programmes télé, dans les rapports de force entre les personnes. Les femmes utilisent beaucoup le sexe pour s'immiscer dans la vie publique et gravir les échelons. C'est un des thèmes importants de la série aussi, sachant que effectivement, Howard Chaykin aime bien dessiner des mecs avec des flingues et des filles avec des gros seins. C'est un peu ça. Sa motivation, raconter. Ce qui est un peu le principe d'Image Comics aussi. Mais comme quoi, on peut faire différentes choses sur le même thème.
Oui, voilà. Ouais.
Image Comics, et en fait, en écoutant Isaac, moi, je me suis surtout fait la réflexion, c'est aussi un comics HBO, en fait, American Flag.
Ouais, totalement.
Tu ferais une série, ce serait HBO, quoi. Ouais. Toi, t'as vraiment des personnages tellement ambigus ou complexes, comme on disait, du sexe, de la violence, comme une bonne série HBO.
Ouais.
Et t'as ça en 84, quoi.
Ouais, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu d'adaptation, parce que ça se prête complètement à une série. Les éléments de science-fiction ne sont pas non plus énormes d'un point de vue spectaculaire, quoi. Ils ont des balles qui est le somnambutol, qui des balles soporifiques. Ils ont des espèces de mini hélicoptères là pour
se déplacer.
Pour se déplacer, mais c'est pas non plus c'est pas ouf, quoi.
Il y a des androïdes,
Il y a des androïdes. Il y a un androïde qui s'appelle Luther, qui est bête comme ses pieds. Ça, c'est marrant aussi, c'est que l'intelligence artificielle est complètement con, quoi. Ça, c'est aussi bien.
Et en plus, elle lui a imposé par sa hiérarchie qu'il veut faire des économies et pas payer un modèle, adjoint. D'accord, il lui donne un robot. Il n'arrête pas de s'énerver sur le.
En plus.
Ouais. Et le chat peut parler. On ne sait toujours pas pourquoi.
Mais on ne sait pas
pourquoi. Il a des pattes cybernétiques. Et il aimerait bien se faire la fille Krieger.
Ouais.
Son émission préférée,
c'est Amour interespèce. Puis ça aussi, on oublie de le dire, mais c'est super drôle.
J'ai trouvé ça
super drôle. Et ce que j'aime bien, c'est pour parler justement précision, c'est une des rares BD où en fait, t'as énormément de dialogues, mais il n'y a aucun dialogue qui est en trop. C'est-à-dire, tous les dialogues servent à quelque chose. C'est hallucinant. Moi, je suis estomaqué à quel point Chaykin peut écrire autant de dialogues, et en fait, t'as pas un dialogue qui est de l'exposition drop. Il n'y a pas du blabla pour rien. C'est pas, on n'est pas dans un. Là, pour le coup, on n'est pas dans un comic standard où on préexplique un peu ce qui vient de se passer. C'est vraiment le faut suivre effectivement à la fois ce qui se passe dans les cases et dans les bulles. Et souvent, il joue la déconnexion entre les deux.
Oui.
Qui fait qu'on est obligé de suivre aussi. Mmh. Et puis l'entremêle, les bulles qui parlent. Ouais. Et ça, c'est intéressant.
C'est pas une série que tu peux comprendre sans lire, en fait. Il a un vrai talent pour narrer les choses, parce qu'on dit souvent qu'un comics bien réalisé, tu peux comprendre sans lire les bulles.
Ouais.
Là, c'est pas le cas du tout. Si tu lis pas ce qui est raconté, c'est impossible de comprendre ce qui se passe dans la série.
Mais c'est une synergie, parce que le mec
Et t'as pas d'effet facile, t'as pas de. Ouais. Il te ressort pas les mêmes vannes ou des trucs.
Ouais, c'est ça aussi. Ouais.
Il joue jamais la facilité, en fait, sur la série.
C'est du travail d'orfèvre.
Et puis la création de cet univers qui est quand même super complexe. Hein, comme tu disais, on a l'Amérique qui est avec les élites sur Mars et les habitants qui sont parqués dans les centres commerciaux. Et à côté de ça, c'est la Ligue panafricaine qui est communiste, qui représente le tiers monde, qui est unifié, qui veut.
Je crois qu'ils ont même envahi l'Europe. Enfin, tu vois, je crois
qu'un des premiers trucs, c'est qu'ils ont atomisé l'Angleterre. Je sais pas pourquoi. C'est l'Irlande qui est toujours en guerre. Je crois aux infos à chaque fois, ils parlent de l'Irlande qui est en guerre.
Ouais, l'Irlande et l'Angleterre sont encore en guerre et c'est la guerre des mots ou un truc comme ça.
Et on les voit
d'ailleurs dans l'aéroport à un moment donné. Et en fait, ils s'engueulent les uns les autres et puis c'est Flag qui vient les arrêter juste au moment où. Et là c'est vraiment un bon exemple pour voir à quel point il utilise bien les bulles, les dialogues. C'est que il essaye de les arrêter avant que les deux représentants des deux pays disent immunité diplomatique. Donc il y a vraiment le immunité diplomatique qui se déploie sur toute la page pendant que lui il est en train de les tabasser. Et il explique, il y a les deux mots qui font le plus peur à un ranger.
Et le il y a la ligue aussi des survivalistes là qui sont plus ou moins coquinisés avec des nazis, mais bon, leurs valeurs de base sont corrompues, donc on arrive avec des alliances contre nature.
C'est ça que je trouve génial parmi d'autres trucs géniaux, c'est comment tout ce qui est les idéologies, toute l'idéologie a été corrompue par l'argent et le pragmatisme pour en avoir ou pour le pouvoir. Et on disait tout à l'heure que ce serait un comics facilement adaptable parce qu'au finalement en termes de machinerie ou tout comme ça, t'as pas énorme à faire pour ce monde de science-fiction. Mais moi, là où je trouve quand même le truc assez incroyable et en avance sur son temps, c'est que comment il t'annonce déjà ou il te préfigure une société ou en tout cas une époque où on a décrété, faussement bien sûr, qu'il n'y a plus d'idéologie, que l'idéologie est morte, qu'il n'y a plus de droite et de gauche, que tout ça, alors, ce qui est totalement un discours complètement creux et faux, mais qui fonctionne parce que comme ça le dominant peut garder sa place de dominant, où du coup chaque idéologie en fait se retrouve pervertie. Moi je suis estomaqué de voir à quel point en fait toute une partie de ce qui est décrit dans American Pie est et la société dans laquelle on vit aujourd'hui, quoi. Le Plex
gouvernement Plex, il ressemble quand même énormément à notre gouvernement actuel.
C'est ça,
sans vouloir faire de mauvais esprits, c'est quand même en plein dedans, quoi.
Voilà, c'est même pas moi, ce qui est terrible, c'est toi, tu m'aurais dit ça dans les années 90, je pense pas que je l'aurais pensé avec autant de sincérité. Mais aujourd'hui, c'est incroyable.
C'est la caricature.
C'est de te dire à quel point, tu vois, cette idée d'élite sur une autre planète, pendant que Terre, tout le monde crève, je veux dire, ça y est, c'est exactement ce à quoi on est actuellement, où les hyper-riches vont se créer un petit coin à eux pendant que tout le reste va crever. De tout ce qui va nous tomber sur la gueule, quoi. Je me dis, putain, moi je rigole beaucoup American Flag, mais des fois j'ai vraiment envie de pleurer,
Il y a un côté de désespérant quand même, tu dis putain, on est vraiment Il le voyait venir, on est tombé dedans comme des ânes.
Ouais.
La retranscription de la Plex TV, des programmes qui sont présentés, t'es en plein dedans quand tu regardes ce qu'il y a à la télé ou quand tu vas sur Internet faire des recherches. T'as les mêmes merdes, c'est le même principe, c'est la même chose qui nous est vendue que t'as dans la bande dessinée et qui est là pour anesthésier les masses et puis canaliser les révolutions et les choses comme ça dans des trucs qui mènent nulle part. Quoi. La guerre des mots, là, qu'on disait, effectivement, les mecs, ils se battent pour rien.
Avec toujours cette idée de...
Bah, ouais, le samedi soir où t'as les gangs de motards qui viennent tous les samedis soirs se friter avec les flics, mais pour rien, en fait.
Voilà.
Parce que tous les samedis soirs, ça redémarre, en fait, parce qu'ils sont excités par ce qu'ils regardent Bob Violence. Et voilà. quand tu faisais la présentation, tu disais une police plutôt une milice. Ben ouais, en fait, on est un peu. C'est un peu ce qu'on a aussi.
C'est ça. C'est aussi ce qu'on a chez nous.
Et d'ailleurs, tu as la réaction de Flag qui dit mais j'ai vraiment l'impression, à un moment donné, il dit mais j'ai l'impression de réprimer les émeutes de Varsovie, quoi. Et,
ouais.
Parce que il y a aussi ça, il y a aussi tout le judaïsme, en fait, tout le fait que Howard Chaykin est juif, mais c'est un intellectuel juif. Je crois qu'il n'est pas non plus super croyant, tu vois. Donc du coup, c'est un peu, il a cet humour juif, cette façon de voir le monde, et en même temps, il est très très acide, très critique envers, d'ailleurs, toutes les communautés religieuses, toute l'intolérance religieuse. Ça c'est démontré tout le temps pour lui. Pour lui, en fait, justement, s'il y a peut-être une fin des idéologies, c'est peut-être aussi que toutes les idéologies, en fait, te vendent la même merde, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire de taper sur le voisin, te désigne un ennemi. Et effectivement, ce que vous dites, c'est on désigne des ennemis en fait à toutes les factions. Et en fait, on s'aperçoit à un moment donné en fait qu'ils utilisent la haine de toutes ces factions pour finalement essayer de gazer Chicago. Ça, c'est le grand et gazer Chicago parce que le mec qui est en place, qui s'appelle John Scheiskopf. Donc, John, tête de merde. Hein.
Oui, il y a des noms qui sont quand même pas mal.
John, tête de con, hein, on dirait en français. Mais Scheiskopf, lui, en fait, tout ce qu'il veut, c'est une promotion. Quoi. Et il se dit que le meilleur moyen de l'avoir, c'est de gazer tout le monde à Chicago. Au moins, ils me font plus chier. ils se révolteront plus. De toute façon, c'est des nazes. Parce qu'ils ont en plus... Il y a ça aussi, il y a tout le trip sur les migrants. Où il y a un satellite russe qui cause un dérèglement climatique. Alors, c'est pas comme nous, on a le dérèglement climatique avec la canicule, mais c'est des tempêtes de neige. Et donc, il y a à cause des tempêtes de neige, il y a des gens qui perdent leur maison, qui perdent leurs habitats et qui se dirigent vers Chicago. Et donc, il y a plein de migrants à Chicago. Et du coup, qu'est-ce qui arrive avec des migrants? Ils sont super bien accueillis et puis on fait en sorte que tout le monde... Non, pas du tout.
Non.
Ils sont foutus. c'est eux qui qu'on pointe du doigt et puis ça se tape dessus tous les samedis. C'est
extrêmement juste, hein, ça aussi.
Ouais.
Cette idée en sous-texte qui est de te dire, mais si en fait, au lieu de se taper sur la gueule, on s'unissait, on pourrait peut-être casser la gueule de ceux qui foutent vraiment la merde, quoi. Enfin, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est ce que Flag essaye de tendre, justement.
Ouais.
Mais là que je trouve, on est toujours dans ce côté non idyllique du propos, c'est-à-dire qu'à chaque fois il va buter sur quelque chose et il va prendre conscience en fait de la tâche que ça peut représenter. Quand tu vois, il y a un truc que j'aime beaucoup, moi, quand il va commencer à avoir la main sur la télé pirate, tu te dis c'est bon, il va avoir un outil génial et tout, et en fait il sait pas quoi en faire lui-même, c'est pas quoi faire de ce truc-là, et il va, je sais plus s'il le délègue ou quelque chose, mais
c'est même pas
quelque chose en te dire voilà, t'es là, t'as une arme en plus dans ta propre révolution de quelque chose. Non, en fait, ça fonctionne pas comme ça.
J'adore ce concept-là des témoins. C'est-à-dire tous les gens qui sont un peu vieux, qui s'échangent des cassettes, des films d'avant le ça aussi, hein, on est en plein dedans.
C'est très Fahrenheit 95.
Il y a ceux qui bouffent complètement tout ce qui est présent sur les trucs de streaming et qui refusent en fait de se nourrir de ce qu'il y avait avant et qui refusent de... Il y a une amnésie progressive, le culte de la nouveauté, mais qui transforme en fait toute une génération et plusieurs générations, et pas seulement les jeunes, hein, mais les vieux aussi, en amnésique. C'est-à-dire qu'ils ne se souviennent plus d'où viennent les idées, d'où viennent les créations, d'où viennent les gens. Ils n'ont pas d'historique, en fait, Et tu te rends compte que tu n'es plus capable d'apprécier quelque chose parce que tu n'as pas les bases. Et en fait, lui, il a, c'est peut-être le moment où il est le plus gentil avec les personnages, c'est avec les témoins, avec cette bande de vieux qui s'échangent des livres qui sont censurés, des films qui sont censurés, qui maintiennent une espèce de culture vivante comme ça, et du culture du partage, de culture de, voilà, de l'échange, de quelque chose de fun et de vivant, en fait, qui fait de nous des individus, hein, comparé à simplement des bouffeurs de streaming. Et en plus, ça se déroule dans un club de striptease. Donc ça, ça lui plaît aussi.
Mais non, c'est très important cet aspect là. Je pense que ce clan là des témoins, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. C'est donc un groupe de. Alors moi j'ai tendance à dire marginaux, mais marginaux par rapport au futur où ils sont. Ils rentrent pas dans le moule. Ils suivent pas. Ils vont pas bouffer ce qu'on leur donne. Comme tu disais, ils ont un mode de vie qui est différent de. C'est des gens qui sont pas mariés ou des choses comme ça. Qui sont pas dans les limites des cases de ce que tu dois être c'est pour être le citoyen modèle quoi. Et je pense que c'est c'est un des trucs qui va dénoncer dans la bande dessinée subtilement, c'est-à-dire qu'effectivement la société elle te
conditionne.
On te conditionne pour avoir un mode de vie, et t'es censé être heureux dans ce mode de vie là. Et ça s'entend dans l'œuvre ton individualisme, comme tu
l'as. La consommation permanente et la consommation permanente de produits frelatés, quoi. C'est ce qu'ils expliquent à un moment donné, c'est qu'eux aussi, ils échangent du porno, mais ils disent que c'est pas le porno de merde qu'on a maintenant, qui est anti-sexe, anti-femme. Et c'est un peu ce qu'on a maintenant, quoi. On a de l'espèce de pseudo, de pseudo-érotisme qui est constant. Quand vous allez aux États-Unis, par exemple,
c'est du porno soft, hein. Que de l'érotisme. L'érotisme demande un peu de poésie, enfin de savoir.
Ouais, mais tu vois le par exemple, si tu vas aux États-Unis, si tu regardes un kiosque à journaux aux États-Unis, c'est les couvertures de magazines, plus cette espèce de, comme tu dis, de porno soft, c'est-à-dire les magazines de fitness, les trucs comme ça. Mais c'est un pays où, effectivement, tu n'auras jamais de vrais magazines de cul comme en France.
Ils ont aussi ce truc des rêves semi-érotiques qui sont induits dans leur sommeil, mais il n'y a pas les scènes de cul.
C'est comme la dose de dopamine.
Est-ce qu'il est en train d'arriver chez nous aussi?
La dose de dopamine des réseaux sociaux.
C'est-à-dire
on te file l'équivalent chimique de ce que tu pourrais avoir en couchant, sauf que tu le fais en ayant des clics, quoi.
Cette culture porno soft qu'on a désormais.
Ouais.
C'est une série magnifique, hein, mais c'est quand même déprimant d'aborder tous les sujets qui sont. soulevés par le truc, parce que c'est clairement.
Sinon, il y a aussi des conseils de cuisine. Hein. Ça, c'est bien.
Ouais. Oui, j'avais remarqué aussi.
Non, mais il y a tout dans ce BD. Mais c'est vrai que c'est déprimant de te dire. C'est facile à dire, c'était visionnaire, mais en fait, il a extirpé, il a poussé les potards sur certaines idées qui étaient déjà là dans les années 84. Enfin, voilà, on est en plein dans les années Reagan et tout. Enfin, c'est. En fait, ce qui était affirmant, c'est de se dire, on a pris la mauvaise tangente à ce niveau-là, quoi. Et c'est là où tu te dis, ça fait plus office d'alarme, en fait, American Flag. Heureusement, c'est pas que ça aussi, hein, parce que si c'était que un manifeste en disant ça va être la merde,
Il y a de l'enquête, il y a de la baston, il y a de la soap, il y a du vélo, du
cyberpunk avant l'heure.
Les personnages ont des histoires incroyables. Leur passé est souvent dévoilé un peu plus tard dans la série leur apparition. Et on a souvent des retournements de situation qui sont complètement incroyables.
La mère de Mandy Krieger, tu vois, moi je trouve que c'est des meilleures histoires du truc, quoi. Tout ce qui est
en plus elle raconte son histoire, et je crois qu'il en a rien à foutre
il y a autre chose à faire,
je crois,
mais il est toujours, c'est un personnage qui est toujours en mouvement, Ouais. Je ne crois pas qu'il soit, il s'arrête souvent. Et du coup, en fait, il est toujours. Les gens viennent lui parler, mais lui, il est en train de préparer un autre truc pour faire quelque chose. Il fait penser à Red Richard, tu sais, un peu à ce niveau-là. Tu sais, le mec, en fait, il ne peut pas se poser deux secondes pour écouter les gens.
Bah, au début, quand il arrive dans la ville, il va aller se reposer, mais on ne le laisse pas, parce qu'il s'embrouille tout de suite avec son patron qui va s'amuser à l'envoyer en mission tout le temps pour qu'il ne puisse pas se reposer.
C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas.
Ouais.
Et du coup, si quelqu'un est tout le temps occupé,
ils le prennent pour un acteur complètement con, quoi.
Oui, en plus.
C'est ça aussi. C'est ça aussi qui est rigolo, c'est qu'il est censé être un acteur d'une série télé qui s'appelle Mark Frost, Sexus Ranger. Et même ça, c'est super drôle parce qu'en fait, c'est en gros, c'est les aventures qu'il vit vraiment qu'il va vivre dans American Flag. Il a déjà vécu ça, mais en tant que
acteur dans une série télé.
Et il a été remplacé parce qu'il ouvrait trop sa gueule sur les plateaux. Donc, du coup, ils l'ont remplacé par son équivalent en hologramme. Et aujourd'hui, on fait ressusciter des acteurs pour les faire jouer dans des scènes alors qu'ils n'ont rien demandé. Quoi. Mais t'as déjà ça. Quoi. T'as déjà le... Mais je trouve Howard Chaykin disait que lui, en fait, son... Ça vient quand même d'un état d'énervement. Hein. Faut quand même la création. La création vient surtout de l'élection de Reagan. Il déteste Ronald Reagan. Il déteste les années Reagan. Il pense que c'est là où tout est parti en couille dans le pays.
C'est juste.
C'est vrai. Et en tout cas, c'est pas faux. Et le truc, c'est surtout qu'il dit ce qui l'énervait le plus, c'est que lui, il se considérait à l'époque comme patriote. En fait, il adore les États-Unis en tant que pays, en tant que concept. Sauf que le patriotisme a été complètement, à l'époque, détourné, piraté par la droite conservatrice américaine. Et c'est ce qu'il dit en préambule. Il cite, je ne sais plus quel auteur, qui disait « Si vous voulez faire quelque chose avec le drapeau, ne le brûlez pas, mais lavez-le ». Et c'est son but, en fait. C'est son but, c'est et c'est le but de Reuben Flagg, c'est ce qu'on voit sur la couverture du premier, c'est de remettre le drapeau en ordre, de retrouver l'esprit américain. Ça rappelle aussi un certain John Carpenter dans le final de Los Angeles 2013 avec American Spirit. Moi, ça m'a fait penser aussi à du Carpenter.
C'est une tradition américaine aussi, ça. Hein,
c'est l'esprit un peu libertaire. Oui. Et puis, mais c'est un esprit libertaire qui est comme chez Carpenter, en fait. Tu vois que le mec, il a réfléchi un peu plus loin que le bout de son nez. Il n'est pas anti-gouvernement par principe.
On n'est pas sur du truc. Une pensée un peu hippie comme. Comment ça s'appelle le truc avec les motards.
Easy Rider,
voilà, qui est une vision aussi très libertaire de la vie, etc. Mais ça va pas beaucoup plus loin que quand même la vie, c'est bien quand on fume des pétards et qu'on est sur la route. Et puis les racistes, ils sont méchants. Là, il y a une fiction qui est quand même poussée beaucoup plus loin.
Chaykin est plus en phase avec les auteurs classiques. Avec les hippies.
Je pense qu'il y a
Il y a le sens de la communauté aussi. Le sens de la communauté, le fait que c'est quelque chose aussi que tu as chez John Ford. C'est-à-dire que.
Mais très tôt dans la production américaine. Voilà,
Quels que soient les John Ford ou Howard Hawks, il y a moins le sentiment de communauté, mais tu as aussi le sentiment individualiste et le fait que tu as des petits groupes qui se forment. Rio Bravo, t'as ça, il est un peu à mi-chemin, lui, entre Ford et Hawks. Mais il est nourri de ça. Et
toujours cette pensée que le pouvoir est corrompu et que
et
l'apathie des gens laisse pérenniser ce type de gouvernement qui se base en plus sur sur une légitimité en toujours renouvelant ces mêmes histoires de valeurs, confronter les gens toujours les uns avec les autres. C'est toujours le même principe qui est utilisé.
Mais t'as aussi cette idée de se dire que même si Flag, par exemple, arrive et doit se battre contre des gangs de motards, des choses comme ça. Et tu as cette idée que même si la violence est perpétrée par le bas, elle est juste l'expression d'une. Enfin, elle est l'expression d'une colère. Et que, en fait, le véritable problème, il est au-dessus, quoi. Et ça, ouais. C'est, voilà, Checky ou comme Carpenter, peut-être ce que tu voulais un peu dire, hein, c'est, voilà, des gens qui mettent la liberté au-dessus de tout, mais avec une conscience qui est que l'ennemi n'est pas, c'est pas le petit raciste du coin, même si c'est pas bien d'être raciste, hein, c'est pas bien d'être méchant, hein, c'est mieux d'être gentil, hein, mais c'est pas le petit ouvrier à côté qui est le véritable problème du truc, quoi. C'est lui, c'est plutôt la conséquence du vrai problème.
Il y a une différence entre la violence qui est institutionnalisée, c'est la violence qui va du haut vers le bas, et la violence qui se déroule en bas. Et ça, t'as ça chez Carpenter, t'as ça chez Verhoeven, t'as ça un peu chez tous les auteurs qu'on aime bien.
Hein. Bah, voilà, c'est ça. Hein.
Qui fait le distinguo entre la violence qui est entre les gens qui sont sur le même niveau social et la violence qui est institutionnalisée qui est souvent plus pernicieuse, plus violente et plus implacable. C'est-à-dire que tu peux rarement t'opposer à... C'est Robocop, hein, c'est quand il peut arrêter des petits truands et des violeurs et des choses comme ça, mais par contre, il peut rien faire contre son patron qui est pourri, quoi.
Voilà.
Et il rentre et t'as la directive 4 et tu peux rien faire, quoi.
C'est ça, exactement.
C'est complètement symbolisé. Voilà, c'est c'est le même propos que tu as dans American Flag où il peut continuer à foutre sur la gueule au go-gang autant que possible.
Autant qu'il veut.
Par contre, foutre en l'air le plex, c'est ce qu'ils disent à un moment donné. Il y a même la réplique. Hein. On ne touche pas au plex.
Ouais, parce qu'il peut pas, dès le début dans son enquête, quand il se rend compte qu'il y a des images subliminales dans le programme Bob Violence. On lui dit tout de suite qu'il ne peut pas enquêter dessus parce que c'est un programme Plex. C'est parce qu'il arrive à voir que les images subliminales
ne sont
pas de
lui
Plex.
Lui est né
que...
sur Mars.
Il est né sur Mars, il peut voir les images subliminales, ce que ne peuvent pas les... Ce que ne peuvent pas voir les terriens de souche. Hein, les terriens de souche. Vous aurez compris, donc c'est il y a à boire et à manger, c'est très dense cette série. On va peut-être faire un point sur en dire plus un petit peu sur Howard Chaykin et sa carrière, sa vie, son œuvre. Isaac, peut-être
tu ouais. Oui, Howard Chaykin, lui, il a débuté dans les années 70. Il a commencé comme assistant de Jill Ken. Où il s'est fait surtout gueuler dessus par Jill Ken, faut bien le dire. Et
Jill Ken le trouvait trop débraillé, il avait un peu honte de l'envoyer
en
audition quand il venait.
Et il a été aussi assistant pour pas rien, Wally Wood, Neil Adams et Gray Morrow, donc quand même trois super dessinateurs.
Il a été à bonne école. Hein.
Ouais. Il fait partie de cette génération donc qui arrive, la génération post Neil Adams, c'est-à-dire les jeunes nouvelles stars même si on ne dit pas encore de c'est pas encore des stars mais des années 70, donc comme Walt Simonson, comme Mike Kaluta, comme il y a qui d'autre, Bernie Wrightson, je crois qu'ils partagent un appartement d'ailleurs avec Mike Kaluta, Walt Simonson et Al Milgrom à un moment donné. Ils sont tous basés sur New York, ils se connaissent tous, ils se montent tous les planches, c'est la grande époque des années 70 où c'est du n'importe quoi. Hein. C'est tout sort dans un désordre complet, mais qui est bouillonnant créativement, qui est passionnant. Et dans une industrie qui perd de plus en plus de lecteurs, mais qui fait quand même feu de tout bois au niveau créatif. Et lui, il est sélectionné notamment pour réaliser l'adaptation de Star Wars, qui est à l'époque son titre le plus connu, parce que c'est quelqu'un qui reste pas longtemps sur les séries, qui n'est pas intéressé par le super-héros, qui aime pas trop l'horreur, qui aime pas trop ce que les autres aiment dans les comics. Ouais. Il se retrouve vraiment à faire des trucs qu'il aime pas, D'ailleurs, Star Wars, il l'a dit, hein, il trouve le film à chier et que il a vraiment fait ça pour bouffer, quoi. Donc, du coup, il a lu de la science-fiction, lui, mais il aime bien que les vieux trucs.
Ouais. Et, il a été collectionneur de comics quand même.
Ah oui, 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 c'était un gros...
Il volait des comics parce qu'il a eu son enfance dans le Bronx assez...
Ouais,
ouais.
Lui, c'est un enfant pauvre. Et... Ouais, ouais,
C'est, ouais. C'est sûrement ce qui fait la différence, je pense, dans son...
Oui, dans c'est ce qu'il explique. Hein. C'est, il dit, je suis un bâtard. Hein. Et, son père, c'était pas son père, mais il l'a su plus tard. Enfin bref, oui, il a eu une enfance qui n'était pas simple, quoi. Voilà. Et il était effectivement gros fan de comics, gros lecteur de comics, mais il en a.
Après, une fois arrivé à l'âge où il devient artiste, c'est plus ça quand même, quoi.
Ouais, et puis c'est surtout qu'il est super critique, et puis c'est quelqu'un qui a pas la langue de bois.
Ouais, visiblement.
Donc du coup, dans les interviews, il débine à tout va. Et puis il a une espèce de d'humour pince sans rire sur son propre travail et sur l'industrie en général.
Ouais, très humble sur son travail.
Ouais, parce qu'en gros, il explique qu'en gros, dans tous les milieux, parce qu'il a fait aussi de la télé. Il a été scénariste, donc plus tard, il a fait de... Ouais, ouais. Bah, il a écrit notamment la série qu'on adore de Flash,
Des années
avec
90.
John Westership. Il a écrit Viper, une autre série qu'on adorait parce qu'il y avait un mec en voiture.
Ouais.
Non, c'est tout nul, mais moi, j'ai regardé parce que...
La grande époque où tu n'avais que des véhicules géniaux.
Ouais. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui, son point de vue, c'est que 99% de tout est de la merde. Donc, et que le génie, et même le génie, on peut trouver des choses à redire. Donc, quand tu l'écoutes. Mais c'est ce qui fait aussi qu'il est si perfectionniste, je pense, sur American Flag. Et c'est ce qui fait aussi que sa production, elle est un peu dure à comprendre pour les gens qui accrochent pas directement à Check-In, parce que. American Flag, ça sort vraiment du lot parce que tu sens qu'il s'est vraiment défoncé sur les 12 épisodes et qu'il y a quand même un côté un peu des fois branleur chez Check-In qui va au plus pressé dans certains aspects du dessin. Tu sens quand ça le saoule rapidement. Ce qui fait aussi que dans les années, quand vous regardez par exemple les années 70, bon, le problème c'est qu'il y a plein d'encreurs qui viennent sur Check-In et qui ne collent pas forcément à son style. Mais après les années 80, tu sens des fois que dans le dessin, il va plus à des facilités, il va plus... c'est pas pour taper une fois de plus sur Brian Michael Bendis, mais tu vois que quand il dessine des New Avengers, tu sens que c'est pas non plus les épisodes qui le passionnent le plus, quoi.
Ouais,
ce que je comprends. Hein, voilà. Mais il y a aussi... moi, je trouve... qu'il y a une partie de, enfin la partie années 80 de vraiment jusqu'au début des années 90 de ces réalisations qui sont en termes de graphique et surprenante, quoi, vraiment parce que après donc la période des années 70, il réalise des adaptations de romans illustrés, notamment d'un romancier qui cite comme une des influences pour American Flag, qui est Alfred Bester, avec une adaptation illustrée de Terminus les Étoiles. Il enchaîne, alors parce qu'il y a des problèmes de production sur cet album qui n'arrive pas à sortir. Donc du coup, First lui fait une proposition. Donc First, qui vraiment démarre en tant qu'éditeur indépendant, basé à Chicago, il leur fait une proposition. Il raconte qu'il a été super bien payé pour une série où il a le droit de tout faire. Et donc, ça devient American Flag. Il va proposer aussi chez The Times Square, qui est une série de graphic novels. Il en a fait deux. Et là, cette année, là, à l'heure où nous parlons, en août, je crois qu'il y a une compile chez Image qui compile les deux premiers et qui rajoute le troisième qui n'est jamais sorti. Donc, voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire cet été. Il s'est frité forcément avec Jim Shooter chez Marvel, donc c'est pour ça qu'il ne bosse pas chez Marvel dans les années 80 et qu'il fait ses séries chez First. Il raconte que tout le monde chez Marvel lisait... je crois que c'est Danny Fingeroff qui l'interview, qui racontait ça, qui disait que tout le monde lisait American Flag chez Marvel, qu'il y avait la moitié qui ne comprenait rien et l'autre moitié qui trouvait ça génial. Donc voilà.
Ça paraît plausible, hein.
Ouais, ouais. Et Et suite au succès d'American Flag, il fait partie des auteurs donc, qui sont choisis pour renouveler un peu DC Comics au milieu des années 80. Donc il tente de faire un des projets de reprise de Superman. Finalement, ce sera John Byrne. Et il fait une reprise du Shadow. Ouais. Alors qu'il dit qu'il trouve que les pulps c'est écrit avec les pieds et que ouais. Il aime bien le perso, mais en fait il s'en fout et qu'il trouve même que c'était nul un peu les romans du Shadow. Donc il s'est fait plein de copains avec, dont Harlan Ellison qui lui a chié dans les bottes au moment de la sortie de la mini-série. Mais il l'a remis à sa place dans une autre interview. Enfin, c'est assez drôle hein, quand vous lisez. Il a refait aussi Black Hawk. Ouais. Dans une mini-série avec la même intrigue que le Shadow, c'est là où je dis ouais. qu'il y a un petit côté blanc noir chez Chekin. Et puis ensuite il a fait sa série donc pornographique et Black Kiss, qui est en fait plutôt une série on va dire une série un peu roman noir avec des moments de ouais des moments
il y a
porno,
des zizi
ouais des zizi il y a des ben, il y a un peu des ouais il y a un peu tout.
Ouais. Encore,
d'ailleurs, il y a
bon,
même des trans,
pas...
mais, ouais. mais c'est bon, c'est pas non plus. Le plus non, intéressant, c'est quand même
ça,
l'histoire.
Ça peut choquer les Américains, quoi. C'est pas.
Ouais. C'est mais pareil, c'est pas mal. Je trouve la fin un peu pareil, un peu bâclée. Ça ressemble un peu à, on va dire, un mélange entre. Ça anticipe un peu le néo-polar des années 90 au cinéma, entre les frères Coen et Lost Highway, quoi. Entre voilà. Ce genre de choses. Et puis après, il va connaître... donc, il va faire le graphic novel là, de Nick Fury et Wolverine, qui est génial. Et puis ensuite, il fait beaucoup de télévision. Il refait un peu aussi de Elseworlds chez DC. Il y en a un super qui est dessiné par Mike Sciarello et écrit par Ward Shekin en tandem avec John Francis Moore, qui est son collaborateur fétiche, qui a travaillé avec lui comme assistant dessinateur. Et ça s'appelle c'est Batman Houdini, The Devil's Workshop, qui est génial, ouais. qui est un team-up entre Batman et Houdini. Et j'aime beaucoup aussi son Batman Dark Allegiances, qui est Batman en plein au début de la Seconde Guerre mondiale, avec qui met à jour aussi un complot avec des fascistes. Donc c'est ça, et puis par la suite il va faire plein de séries, Power and Glory, Mighty Love, enfin des one shot, des mini-séries, jamais des choses qui retrouveront, je trouve, la qualité d'American Flag, excepté peut-être American Century, qui est pas mal, qui ne dessine pas mais qui l'écrit chez Vertigo et qui fait une vingtaine d'épisodes. J'entends les feux d'artifice qui saluent la carrière de Ward Shekin.
C'est bon.
Et voilà, et tout ça pour dire que voilà, les 12 épisodes dont on parle pour American Flag, il faut dire qu'il est resté au scénario et au dessin jusqu'au numéro 26. Et y a un break avec le 27, c'est Alan Moore et Don Lomax qui concluent en fait une histoire qu'ils avaient en backup dans les précédents numéros et qui est complètement nulle. Hein. Pour Alan Moore, c'est vraiment ce qu'il a fait de pire. Du 28 au 32, ça sera toujours Shekin au scénario, mais avec Joe Staton au dessin, et puis un peu Mark Badger. Et puis après, il passe la série à d'autres scénaristes, Steven Grant et JM DeMatteis. Et la série, elle sombre tellement qu'ils font un numéro 46 qui résume tout ce qui s'est passé depuis le début pour annoncer le retour de Ward Shekin et qui s'excuse aussi des précédents. Présente ses excuses aussi pour les précédents numéros.
On peut donner des idées à d'autres éditeurs.
Oui, voilà, il y aurait de quoi faire. Il n'y aurait que ça.
Spécial excuse.
Marvel Apologize.
À moi, le mois des lamentations.
On le mois des pour les 20 dernières années. Les 20 dernières années.
Tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Voilà. Allez, on reprend avec les
premiers. On y croit.
Ça peut arriver. Et donc, les derniers numéros de la série, les 47 à 50, c'est réalisé par Ward Shekin et Mindy Uwell au scénario, Paul Smith et Mike Vosburgh au dessin. Et la série redémarre sous le titre de Ward Shekin American Flag. Elle est supervisée par Ward Shekin, elle est écrite par Mindy Uwell puis John Francis Moore. Et Mike Vosburgh va faire le dessin sur les 12 numéros. C'est, la reprise est beaucoup plus cynique, beaucoup plus satirique. Je trouve aussi les personnages changent un peu de caractérisation. C'est, tu vois que le truc a un peu évolué. C'est pas mal aussi, mais moi je reste. Je pense qu'il y a vraiment les 12 numéros d'American Flag qui sont mortels. Les numéros jusqu'au 26 sont très bons. Et ensuite, faut choisir. Moi, j'aime beaucoup la deuxième série, mais c'est un autre. C'est peut-être pas aussi fin que ce qu'il faisait sur le début de la série. On voit que les années 80 sont passées et que lui, il s'aperçoit qu'on arrive de plus en plus dans le futur qu'il a programmé. Donc, il est de plus en plus énervé. Et il y a aussi un American Flag spécial dans lequel donc Robin Flagg rencontre les personnages de Times Square et pour annoncer la série Times Square. Et je crois que ce numéro sera republié aussi dans l'album là, qui va sortir chez Image.
Il y a du monde. Ouais. Une carrière un peu iconoclaste. Hein. Il n'a jamais finalement trouvé peut-être sa place dans les deux grands mainstream. Alors, il a fait beaucoup d'Elseworlds pour DC. Parce que chez Marvel, il a fait aussi quelques séries. Je crois qu'il a travaillé sur Cable à un moment donné, des X-Men. Mais
il a fait du Nick Fury aussi, je crois.
Ouais, qui n'était pas bon du tout. Et, ouais. Il veut pas s'embêter avec la continuité, hein, d'après ce que j'ai lu. C'est pour ça qu'il a fait beaucoup d'Elseworlds. Et que la continuité, c'est pas trop son truc. Il avait dessiné Aquaman aussi, qui était scénarisé par
Simonson. Ouais.
Par Simonson aussi, à une époque. Donc du coup, c'était joli. Ouais, voilà. C'est ce type d'artiste qui clairement qui rentre pas dans le moule. Mais qui a du coup bousculé un petit peu les codes, fait évoluer un peu aussi l'emprise de la censure sur les comics en allant un peu plus loin chez First, principalement parce qu'il avait plus de liberté hein, dans cette boîte d'édition indépendante.
Oui, ils n'ont pas le comics code, ouais.
Ouais, mais du coup, ça pose les premières pierres de ce qui viendra ensuite quand ils finiront par se débarrasser du comic code.
Ouais, il faut dire que c'est des BD qui ne paraissaient pas dans les kiosques, en fait, qui étaient seulement vendus dans les comic shops. Tu ne trouvais pas American Flag au coin de la rue, quoi. Il fallait aller vraiment dans les comic shops aux États-Unis pour les trouver. C'est le direct.
Qui deviendra la norme par la suite.
Qui deviendra la norme, ouais. Mais à l'époque, effectivement, First, c'est un des premiers éditeurs indépendant, qui va donner, ouais, alors papier de qualité, je les ai, les numéros originaux, ça dépend desquels. Ouais, Nexus est sur du meilleur papier que American Flag.
Mais du coup, ça se vendait bien, je m'en rends pas compte, tiens. Alors, parce que déjà, justement, en 84, t'avais encore beaucoup de public sur des au coin de la rue, tout ça, enfin, t'avais pas encore le...
Mais alors, ce qu'il dit, c'est que les numéros de vente aujourd'hui, les éditeurs, même mainstream, tueraient pour les avoir.
Ouais.
Sauf qu'à l'époque, c'était. Ça se vendait pas terrible en soi, ça se vendait bien pour un titre indépendant, quoi. Mais. Voilà,
ouais, ça n'a pas été un hit.
Pour que ça dure 50 numéros, il faut que ça se vende quand même. Sinon, ils auraient, débranché la prise après le 12e numéro. Quoi. Lui, au départ, il voulait faire que 12 numéros. Mais comme on n'était pas dans une culture. On est vraiment début des années 80, on n'est pas encore dans la culture de la mini-série. Et de la maxi-série, surtout.
Il n'y a pas d'histoire de TPB à l'époque. Hein.
Voilà, ouais, on est avant Watchmen. Et en fait, avant Watchmen. T'as pas cette conception que ton œuvre va rester sur les étagères pendant 30 ans. Ce qui fait aussi un petit peu le seul problème que j'ai avec les 12 premiers numéros, c'est que tu sens que l'histoire de Peggy Krieger et la fin de ce qui arrive à la station QESA de la station pirate se trouve dans les numéros 13 et 14 qui ne sont pas dessinés par Chekin, qui sont dessinés par Jim Sherman et Rick Burkett pour l'un et Pat Broderick et Rick Burkett pour l'autre. Et c'est moins beau, forcément. Et il fait notamment toute la révélation sur l'histoire de Gretchen Holmström, Peggy Krieger, voilà, de cette révélation, il l'a fait dans ces deux numéros, et tu sens que ça devait se placer en épilogue des 12 épisodes, parce que tu sens qu'il tire un peu... Et puis, il amène d'autres intrigues qu'on va retrouver, notamment l'intrigue au Canada, dans les prochains épisodes. Mais lui, au départ, avait vraiment conçu les 12 épisodes comme une histoire complète. Ce qui fait aussi que tu sens que dans les 12... C'est ce qui fait aussi la qualité des 12 épisodes dont on parle. C'est-à-dire qu'il a vraiment toute l'histoire en tête. Il a déjà dit... Ça aurait été dans une période où on acceptait les maxi-séries et il y avait cette culture de on publie une fois en single et après on fait l'album et l'album reste. Il aurait fait American Flag comme ça, quoi. Mais c'est pas grave, hein. On a eu après une super série qui a duré 50 numéros.
Mais ça te montre à quel point le côté, encore une fois, d'anticipation par rapport à toute une industrie aussi, quoi.
Ouais.
Non seulement il est, je ne veux pas utiliser visionnaire, hein, mais beaucoup plus anticipateur.
Il est anticipateur. Avant-gardiste. Donc,
voilà, avant-gardiste, merci. Avant-gardiste sur l'état politique de cette société, mais il est en même temps, il réfléchit aussi sur son support même, quoi, sur la BD en elle-même, là-dessus. Hein.
Bah, Dark Knight Returns de Frank Miller. Voilà. Reprend les cases de télé, c'est le contexte.
Sans American Flight,
il n'y aurait pas Dark Knight Returns.
On n'en a pas Dark Knight Returns, on n'a pas Watchmen.
Il y a Lynn Varley d'ailleurs qui fait les couleurs des deux premiers épisodes.
Ah, qu'est-ce que c'est beau en plus. Enfin, j'adore son travail. Et oui, toute la manière de narrer avec la télévision qui te sert de support narratif. À la fois d'introduction et en même temps de fil rouge sur l'action en elle-même, en plus d'être témoin et acteur même du truc. Enfin, c'est la place de la télé est incroyable, hein. On parlait de comment Neal Adams utilisait la télé dans le dernier X-Men, podcast qu'on a fait sur les X-Men, où c'était déjà intéressant, mais on voit en à peu près un peu moins de 20 ans, bon, 15 ans à peu près, la place que la télé a prise et aussi la manière dont elle a changé. C'est ça aussi qui est intéressant, de voir comment la télé des années 60, c'est pas la télé des années 80. Et c'est ce qu'on voit aussi dans American Fly, quoi. À quel point la télé est devenue acteur même de la déchéance du truc, quoi.
Et puis il y a des pans d'intrigue du type, ils prennent les délinquants, ils les engagent dans les Video Rangers.
Ouais, il y a beaucoup de repentis.
C'est ce que fait dans Batman dans Dark Knight Returns, où il reprend le gang des mutants et ça devient son armée pour libérer Gotham. Donc il y a ça aussi dans le côté complot, tu as ça dans Watchmen. Ça démarre avec un meurtre, comme Watchmen, ça démarre avec le meurtre de Hamilton Krieger. Pareil, il découvre dans un placard la vérité sur ce gars-là, Rorschach découvrait la vérité sur le comédien.
Dans une structure qui ressemble quand même beaucoup à ce qui sera fait par la suite, avec des intrigues qui partent vraiment dans des...
Puis il y a le cinéma, ce qu'on se disait...
La télé qui va faire les séquences avec la télévision qui vont faire avancer l'intrigue, là où chez Neal Adams c'était plus pour créer une ambiance au moment de l'attaque des sentinelles. Là, tu fais passer beaucoup de choses par ces séquences de télévision chez Shekin.
Et la manière de la mettre en page, tu vois, chez Adams, déjà chez Adams, t'as cette façon de l'intégrer dans le dynamisme de sa page. Quand ils font apparaître les deux journalistes et en même temps les sentinelles qui attaquent, choses comme ça. Et chez Check-in, t'as aussi ça, je trouve, dans cette manière qu'il a d'utiliser en fait le poste télé comme si c'était la case cases de la page, comme un gaufrier normal, un truc classique.
Ouais, ouais. Il n'y a pas de gaufrier standard dans American Flag.
Voilà, ah oui, vraiment pas.
C'est ça qui est... Les personnages, les têtes se chevauchent des cases, des personnages chevauchent certaines cases. Des fois, tu n'as que des cases horizontales, des fois, tu n'as que des cases, tu as un gaufrier en quatre cases. Enfin, c'est vraiment, tu as des personnages qui ressortent, qui ne sont pas détourés par une case.
Oui, des onomatopées voilà, qui peuvent prendre.
Les onomatopées chantent,
ouais, bah, alors qui là, servent de décor.
Le boulot de Ken Brusnak, il est complètement intégré. Le boulot du lettreur, il est complètement intégré dans la narration, puisque la façon, la typographie qui est utilisée pour les inscriptions, les onomatopées.
Il y a le passage quand il parle en russe, avec les lettres qui sont,
inversées.
Qui apparaissent quasiment en cyrillique, ça c'est.
Il y a la scène où ils utilisent le somnambutol sur les motards, là. C'est les flingues font pa 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 ma ma mou ma 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 mou ma 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 comme dans Surfing Bird quoi. Ouais. C'est d'ailleurs que t'as même la bande son qui est intégrée en fait dans le c'est quand même un truc de fou quoi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur la façon de raconter, ça me reviendra, mais ouais, par rapport à Watchmen et par rapport à Dark Knight Returns, il y a aussi le côté par rapport à Watchmen, il y a cette façon de dépeindre l'action qui n'est pas de l'action que tu as de comics habituels. C'est-à-dire que t'as des bastons, mais les bastons sont très sèches, c'est genre un coup de poing et puis les gens tombent et puis ils se font vraiment mal. Ils tombent contre une table basse, par exemple. Ils tombent contre une table basse, mais ils ne se réveillent pas en se frottant la tête et puis avec des petites étoiles autour. C'est-à-dire qu'ils ont du sang et puis ils sont morts, quoi. Ils ont une hémorragie cérébrale. Ils glissent dans les escaliers. Et il y a des scènes d'action qui ne sont pas des scènes d'action que tu as l'habitude de voir, comme dans le premier épisode, quand il va pirater la télévision de Duplex. Ils vont sur des espèces de...
sur les antennes.
Des antennes volantes, et il a le vertige. Et en fait, la scène, c'est simplement une scène de vertige, et c'est super dur à faire en bande dessinée. Et il arrive vraiment à te mettre dans la tête de Flag, qui est accroché à ces grandes antennes géantes qui surplombent Chicago, et tu sens le vent. Il explique que il y a plein de radiations, il a pas envie d'être de finir stérile. Enfin bref, t'as des atmosphères comme ça qui donnent aux scènes d'action quelque chose de plus, je veux dire, réaliste, qui devrait être anti-spectaculaire et qui deviennent aussi spectaculaires que des scènes d'action classiques à la Jack Kirby où tu as des combats de titans, quoi. Et t'as ça dans Watchmen aussi.
Il n'y a pas trop d'influence, je dirais, de Jack Kirby chez Chicken. Tu sens que c'est pas l'école. Hein,
Non. Il y a Harvey Kurtzman, ça c'est clair. Il y a Wallywood, forcément. Il y a beaucoup de Wallywood. Et notamment, Wallywood, tu avais les combats chez Wallywood, c'était pareil. C'était des personnages qui étaient en action, mais c'était pas. Tu n'avais pas l'impression que la terre tremblait. C'était quelque chose comme plus des athlètes qui forçaient pour se. C'est pas Jill Ken, quoi. C'était pas la splash page où tu as le mec qui est complètement démembré après un coup de poing. C'était quelque chose de plus feutré.
Il y a quand même une influence de Jill Kane dans son style, mais
Elle est plus dans les visages. Clairement. Ouais. La contre-plongée où tu vois les narines du personnage. J'aime bien comment est-ce qu'il fait les sourcils, moi, des personnages. Ils sont toujours interloqués, ils ont toujours le sourcil qui se relève.
Moi, c'est bien parce qu'ils font les tronches, en fait, un peu les. Toujours à faire la tête, tu sais, mais un peu méchant. On est sérieux et y a un côté en plus très droit, enfin très sec. Hein, c'est des lignes droites, il n'y a quasiment pas de contours, c'est limite.
Ces visages ne sont jamais symétriques.
Non.
Ces visages ne sont jamais symétriques, il y a toujours. C'est ce qui les rend plus réalistes, en fait. C'est que tu as toujours une partie du visage qui se casse la gueule ou qui est énervé par rapport à une partie normale, quoi.
Son héros, c'est toujours le même quasiment dans toute série, il a toujours un petit peu la même gueule. autant au niveau du reste des personnages de la série, ils ont tous des morphologies, des têtes, des visages différents, des trucs.
Ouais.
Tu les reconnais tous. Hein, c'est.
Ouais, même les femmes, elles ont des mensurations différentes. Des...
Ouais.
Il y a Titania West qui est plus grande que Crystal Marakova. Enfin bref, c'est.
Non, c'est. Voilà, on est au niveau des... Bon, de toute façon, je pense que vous aurez compris qu'on a affaire quand même finalement à maître dans son domaine.
Et tu dis que son personnage principal se ressemble beaucoup dans les séries et ressemble beaucoup à Ratchet King, hein, je trouve.
Oui.
Il y a une volonté de faire transpirer sa sensibilité et ta vision du monde dans chacune de ses
séries. Ouais, non, mais c'est pas désagréable.
Via même le héros. Ouais, non.
J'aime beaucoup cette idée-là, quoi, de se dire limite un peu le propre héros de son récit, quoi.
Bon, je crois qu'on a fait le tour, hein, quand même, de la question doucement. Même si on commence à rentrer dans les détails de l'intrigue, on gratte juste la surface. Ouais, là on est vraiment à la surface, parce que si on commence à rentrer dans tous les détails de l'intrigue, on a pas fini. Podcast. Ouais, c'est ça. On pourrait faire épisode par épisode, en fait. Comme on a fait pour les Avengers des années 80, hein, si vous voulez nous écouter, c'est en ligne, ça. Avengers Rassemblement.
Moi, je voulais juste dire, tout à l'heure, on parlait de Robocop, mais je trouve que même Total Recall et Starship Troopers, c'est American Flag aussi. Hein.
Non, mais on est clairement dans
les trois films, la trilogie de science-fiction de Verhoeven, c'est voilà.
Il y a même du Soldier of Orange, il y a même du.
Ouais. Si vous voulez chercher.
Il y a même un peu de Basic Instinct, il y a même un peu de.
Ouais, bah oui. Hein. Bah, ils ont cette même vision de.
Cette sensibilité.
Ils cherchaient le réel qui aurait été parfait pour adapter American Flag, mais en fait, ça y est, il l'a fait, quoi.
Ouais. ouais.
C'est Paul Verhoeven.
C'est important de souligner la parenté vraiment entre les deux. Parce que, si vous aimez l'univers de Verhoeven, vous êtes en plein dedans avec.
Et c'est ça qui est fort parce que t'as des comics qui en fait vont commencer à influencer 10-15 ans après, quoi. Mais American Flag, donc c'est 84. Bah sur les 5 ans derrière, tu vois tout ce qui sort, ça paye son tribut à American Flag, quoi. Watchmen, c'est 2 ans après, Dark Knight Return, 1 an, 2 ans après, Robocop, ça arrive en 87. Enfin voilà, tu vois à quel point ça. Et je pensais chercher la vite fait parce que j'ai oublié l'histoire, mais même le neuromancien, est considéré comme le début officiel du cyberpunk. Mais déjà, là, tu vois, on est à la fois aussi dans un espèce de bouillon créatif qui beaucoup de choses convergent, beaucoup d'auteurs réfléchissent aux mêmes choses et tout. Et en même temps, tu vois à quel point American Flag fait partie de ce lot et aussi ouvre les portes pour plein d'autres qui vont aller picorer un peu dans ce qu'il offre, quoi. Tellement c'est. Et en plus, tu sais qu'il picore sans que on va forcément les traiter de pilleurs, parce qu'il y a tellement de choses dans American Flag et t'as tellement de choses et t'as tellement en plus de trucs que tu peux dire. Au final, les mecs se sont dit, ok, il l'a fait, mais nous on peut aussi le prendre et aller sur une autre petite voie aussi, quoi, tu vois. C'est ça aussi qui est assez incroyable.
Bah, je peux reprendre d'ailleurs
dans une tradition. Hein.
Ouais. Bah d'ailleurs, en parlant de tradition, je peux reprendre le courrier des lecteurs mais l'édito du premier numéro, dans lequel Check-in explique un peu quelles sont les influences, en fait, les bouquins qui l'ont influencé pour si vous avez envie de lire quelque chose qui s'en rapproche de American Flag. Ici, donc, forcément, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley et 1984 de George Orwell, mais aussi L'homme démoli et Terminus, les étoiles de Alfred Bester, et Révolte en 2100 de Robert Heinlein.
Super.
Qui a écrit Starship Troopers, qui a été réalisé par Paul Verhoeven. Donc voilà, comme ça.
Révolte en 2100, c'est un de ses courts romans qui fait partie de son histoire du futur. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça décrit une Amérique qui est sous le joug d'une dictature religieuse. Et on va suivre, en fait, un soldat qui est un tout jeune soldat recru, vraiment bah, religieux, qui s'occupe de garder le palais, enfin la porte du palais du grand prêtre, enfin voilà, avec une histoire de réincarnation, et qui va découvrir qu'en fait derrière cette chambre et tout ça, il se nique toutes les bonnes sœurs qui passent, quoi. Et donc il va aider une jeune recrue à s'évader. Et ils vont rentrer dans la résistance, parce que tu découvres dans Révolte en 1900 qu'il y a toute une résistance qui se met en place en underground pour lutter contre cette dictature sur le modèle de la résistance française. Et ça permet à ce garçon de complètement bah, changer de point de vue au fur et à mesure qu'il va grandir dans cette résistance et tout ça. Ça fait partie des meilleurs trucs de l'histoire du futur de Headline.
Eh ben voilà.
Ça a l'air passionnant, voulez... en tout cas.
Ah bah l'histoire du futur de Headline, c'est à lire. Il hein. y a des trucs un peu moins bien selon les époques, mais c'est un ensemble de nouvelles et de romans. Et il y a quelques nouvelles qui sont superbes et un ou deux romans qui tuent, et notamment ouais, Révolte 2100, c'est vraiment un de ses meilleurs trucs. Hein. De toute façon, Headline, il faut lire. C'est génial.
Ouais.
Voilà. Beaucoup décrié, mais j'ai l'impression mais que ça vaut le... Bien.
Ouais.
Et politiquement, hein. Toujours pour les mêmes conneries.
Ouais, mais... Politiquement, ouais, mais ouais. Et puis, il a vachement varié aussi, hein, ce mec. Mais c'est pareil, c'est un des natures complexes, quoi. Et ce qui fait que c'est passionnant. Quoi. C'est le mec qui t'écrit une nouvelle sur le danger de la bombe nucléaire avant même qu'elle ait été balancée sur Hiroshima, quoi. C'est super, quoi. Okay.
Ça donne une idée du personnage.
Non, vraiment bien.
Bah voilà, des bons conseils de lecture pour l'été qui arrive, pour lire sur la... Enfin, on est en plein dedans, plutôt. Hein. Voilà, bah c'était sûr qu'avec un truc comme American Flag, on allait se retrouver à citer En veux-tu, en voilà, des références à aller découvrir. Bon, faut qu'on parle d'un moment qui craint et un moment cool.
J'en ai pas, je suis désolé. J'en ai pas. Bah, je dirais après le 12e épisode, c'est dommage que Checking dessine plus. Et ouais. j'ai plus la niaque. Mais et du coup, c'est vrai que c'est dommage que la révélation sur.
Ouais, c'est le seul truc que je
ne soit pas, ouais, pas intégré dans le 12e. Mais bon, ouais. Voilà, nous on devait chroniquer les 12 premiers numéros.
Moi, voilà.
J'ai lu plus loin.
Du coup, il n'y a rien qui craint et tout est
mort. Ouais. Si, le coup de la recette de cuisine, peut-être, qui est. C'est peut-être pas nécessaire. Il y a un moment donné, il mange quelque chose et on nous dit qu'on retrouvera la recette à la fin du.
Il le fait deux fois. Il le fait deux fois. Ouais. Il y a les spaghettis frittata, là, et puis il y avait autre chose. Ils ont pas mis les deux dans le TPB. Dans les numéros uniques, il y avait aussi sa recette de carbonara. Donc, je testerai un jour, je vous dirai si c'est bon.
Vivre dangereusement. Pour,
ouais. Super. Il faut savoir que quand j'ai rencontré une fois Ward Check-in et enfin, dans une convention, il est super sympa avec tout le monde. Quand vous venez à son et que on a discuté bouffe, donc du coup c'est aussi quelque chose qui le voilà, ouais.
Qu'il travaille.
Ça, c'est bien. Personne peut être mauvais si tu parles bouffe avec lui.
Voilà.
Ouais. Et des moments cool, il y a que ça, quoi.
Ouais.
Ouais. Il y a quelque chose que vous voulez souligner.
Moi j'aime bien. Je sais pas laquelle est votre préférée dans les personnages féminins. J'aime bien Amanda Krieger. Je trouve que
clairement, ouais. Ouais, ils ont tous leur charme, hein.
Ouais, mais je trouve qu'il il a particulièrement soigné
le personnage féminin
fétiche
par excellence.
Ouais,
sinon c'est ouais, c'est non, clairement
un moment que je trouve cool. Ouais, c'est le moi je le redis, mais le alors ouais, il y a un truc dont on n'a pas parlé, moi, que j'aime beaucoup, c'est sur la. Donc, sur les 12 épisodes, en fait, il y a 4 sous-intrigues. C'est-à-dire, il y a les 1, 2, 3 qui forment un petit arc, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12. Et chacun sont des petites sous-intrigues qui font une grande intrigue. Et dans les intrigues du 4, 5, 6, tous les épisodes démarrent avec le satellite russe qui se réveille et qui va foutre la zone aux États-Unis en créant une tempête de neige, un blizzard qui va foutre le caillon dans tout le pays, qui va créer toute une migration, carrément une diaspora Chicago. Et je trouve ça super bien utilisé. C'est un petit truc narratif qu'utilise aussi Walt Simonson dans ses premiers Thor. Avec l'arrivée de Surtur, voilà.
Bah, ça, c'est du grand talent narratif, au final. Vous aurez compris, faut vous jeter sur American Flag si c'est pas déjà fait. Surtout que c'est vendu pour une bouchée de pain, je crois.
Ah, pour ce que ça vaut, oui, clairement. Hein.
Donc voilà, n'hésitez pas. C'est la meilleure vision de la société que tu peux avoir. Là. Enfin, moi, je suis très proche de la sensibilité d'un Howard Chaykin ou d'un. Donc, on est un peu comme à la maison, quoi, quand on
voit
un masque comme ça, et de Verhoeven et compagnie, Carpenter, tout ça. Donc voilà, c'est un voyage absolument savoureux dans un futur
merdique.
Et voilà, allez-y, vous serez pas déçus du voyage.
On n'a même pas parlé de John Chayskopf, du méchant de la série qui s'en prend plein la gueule pendant toute la série.
J'adore ça. Percer les jambes.
Il finit avec des bandeaux tout autour de la tête.
Il s'est démonté une paire de fois. C'est assez
plaisant.
Et il ressemble un peu à Jim Shooter. Donc, je pense qu'il réglait certains
comptes,
certaines affaires mal finies.
Ouais. Voilà. J'ai du mal à décrocher de cette série et de cette discussion. Qu'est-ce qu'on va faire? L'autopromo pour y arriver. Donc, on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous nous retrouvez sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker. Mettez des commentaires, tout ça. On a plein de... Toutes nos archives sont en ligne et gratos, disponibles sur YouTube. On parlait des X-Men de Neil Adams là récemment. On vous a parlé de Civil War et de Ultimates Volume 2 en une émission. On a fait tout ça en une émission. Et puis on a notre série sur John Byrne. Le dernier épisode c'était sur Namor et notre série Avengers Rassemblement sur les Vengeurs des années 80 scénarisé par Roger Stern. Dès que ça sort vous êtes avertis si vous cliquez sur la petite cloche si vous êtes sur YouTube, comme ça dès que ça sort vous êtes informés. Bon Jérôme, merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Pareil Isaac, merci à toi.
Merci, c'était un vrai plaisir. Cette émission.
Ouais, voilà, là, c'était que du plaisir. Ouais. Lire le dessiné, en discuter.
Ça fait du bien après.
Dans ces temps troublés, se trouver dans cet univers-là, c'est quand même du plaisir de chaque seconde. Et d'ailleurs, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures dans le monde merveilleux des comics. Ciao, bye bye, les amis.
Bye bye.